Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13h à Melbourne, je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble, vous écoutez SBS French, votre programme en français sur la radio SBS et aujourd'hui, comme chaque jeudi, on va parler économie avec le taux d'inflation qui atteint 6,1% en Australie et qui pourrait monter selon les prévisions à 7,75%. Et pour la deuxième partie d'émission aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons la chance de recevoir un invité en studio, Frédéric Hollande est professeur à l'Université de Melbourne. Il a créé un événement pour mettre les femmes à l'honneur ou comment combattre les inégalités dans le monde de la science. Frédéric, bonjour.
Bonjour Marianne.
C'est un beau projet dont vous allez nous parler, un thème nécessaire et tellement d'actualité, mais aussi un thème de taille, hein, car le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une mince affaire. On en parle un petit peu plus tard. On commence d'abord, comme d'habitude, par le journal. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 28 juillet. Taux d'inflation en hausse, croissance réduite. Le gouvernement Albanese s'apprête à présenter son budget et fait déjà face aux critiques de l'opposition. Les visas de protection pour les Ukrainiens ayant fui la guerre et s'étant réfugiés en Australie seront étendus aussi longtemps que nécessaire, déclaration du ministre de l'Immigration. Ce rapport très pessimiste de l'ONU sur la lutte contre le sida. 650 000 personnes sont décédées du VIH l'année dernière et le nombre d'infections augmente de nouveau dans certaines régions, l'Europe de l'Est et l'Asie notamment. Et en sport, les Bleus éliminés de l'Euro 2022 après leur défaite face à l'Allemagne et ce, aux portes de la finale. Tous les détails dans le journal des sports. Baptême du feu pour le gouvernement Albanese aujourd'hui. Le ministre des Finances s'apprête à présenter son budget. Jim Chalmers assure vouloir être aussi transparent que possible et dire la vérité sur les perspectives économiques bien plus sombres que prévues. La croissance estimée a été réduite d'un demi-point et il faut s'attendre à ce que le PIB n'ait augmenté que de 3,75% en 2021-2022 contre les 4,25% estimés lors de la campagne électorale. On écoute le trésorier australien.
When you've got rising interest rates, when you've got dramatically slowing global growth, that will obviously have implications for our economy here at home, and that will flow through to implications for our budget as well. There's no use pretending otherwise. I think for too long, Australians have had governments which have tiptoed around the bad news and tried to sugarcoat things, and that's not our style. What we would prefer to do is to be upfront and honest, paint a realistic picture of the economy that we've inherited from our predecessors, and outline the plan to deal with it.
Des mesures insuffisantes selon le porte-parole des finances de l'opposition, Angus Taylor.
Around the world, we've seen this building real momentum, and we need to see a response from Labor. I mean, instead, we're getting a picture. You know, we don't need a picture from the Treasurer. We need a plan.
L'Australie qui fait également face à son taux d'inflation le plus élevé depuis les années 2000, 6,1%. Et les prévisions futures évoquent même un pic à 7,75%. On en parle dans la chronique économie un petit peu plus tard dans l'émission. Et pendant ce temps, eh bien aux États-Unis, la Banque centrale américaine frappe fort pour tenter de sortir l'économie du pays de l'inflation qui atteint 9,1% sur un an. La Fed a relevé pour la quatrième fois consécutive ses taux d'intérêt et son patron, Jerome Powell, affirme qu'il n'hésitera pas à continuer dans cette voie.
Avec mes collègues, nous sommes déterminés à faire baisser l'inflation et nous mettons tout en œuvre pour cela.
Nous avons les outils dont nous avons besoin et la détermination nécessaire pour restaurer la stabilité des prix au nom des familles et des entreprises américaines. Le pays et l'économie ont traversé une période difficile et ont prouvé leur résilience pendant ces deux dernières années et demie. Il est essentiel que nous atteignions notre objectif de 2% d'inflation si nous voulons réunir les conditions pour un marché du travail stable qui soit bénéfique pour tous. Du point de vue de notre mission de stabilisation des prix, la situation actuelle est claire. Le marché du travail est très tendu et l'inflation est beaucoup trop élevée. Pour changer cela, le comité monétaire de la Fed relève ses taux directeurs de 3/4 de point.
Retour en Australie et le Parlement va étudier un projet de loi pour offrir 10 jours de congés payés supplémentaires en cas de violence domestique. Ce congé exceptionnel serait aussi applicable aux personnes travaillant comme casual, ces employés qui ne sont pas éligibles aux arrêts maladie en temps normal. Les salariés absents seraient payés au taux en vigueur qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé ces jours précis, c'est-à-dire avec les primes et les bonus des week-ends, jours fériés ou encore horaires décalés. Un projet de loi justifié par le ministre des Relations professionnelles qui explique que bien souvent, le problème est de fuir ces violences. On écoute Tony Burke.
More than 68% of people experiencing family and domestic violence are in paid work. However, many can't leave violent situations without risking joblessness, financial stress, homelessness and poverty, leaving workers having to choose between their safety and their livelihood.
Autre proposition du gouvernement albanais, celle de permettre aux réfugiés ukrainiens de travailler et d'étudier en Australie aussi longtemps qu'ils en auront besoin, je cite, sous leur visa de protection. Ce plan présenté par le ministre travailliste de l'immigration, Andrew Gill, intervient quelques jours seulement avant la fin du programme de visa humanitaire temporaire mis en place par le gouvernement Morrison. Et la guerre en Ukraine, justement, eh bien Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, va s'entretenir dans les prochains jours avec son homologue russe, une première depuis le début de l'invasion en février dernier. On apprend que cet appel téléphonique ne sera pas une négociation au sujet de l'Ukraine, mais une discussion autour des Américains détenus en Russie et autour des exportations de céréales. Dans le même temps, les combats prennent une toute autre forme 5 mois après le début de l'offensive, notamment dans la région de Kherson, dans le sud du pays. Depuis quelques jours, les forces de Kiev ont engagé une contre-offensive. Elles viennent notamment de bombarder un équipement clé en le pont Antonovsky, seul point de ravitaillement reliant la région de Kherson à la rive sud du Dniepr. Sur place, la correspondance de Stéphane Tsioan pour Radio France Internationale.
Dans la nuit de mardi à mercredi, le pont Antonovsky, long de 1300 mètres, a été frappé pour la troisième fois depuis le 19 juillet par des missiles de longue portée de type HIMARS, ces missiles multiples fournis par les États-Unis qui permettent à l'artillerie ukrainienne d'effectuer des frappes dans la profondeur de façon très précise, parfois à plus de 80 km de distance. La chaussée de l'ouvrage, criblée d'impact, a été rendue impraticable à l'endroit des frappes et ce mercredi, les autorités russes d'occupation à Kherson l'ont fermé jusqu'à nouvel ordre. Le pont Antonovsky est un des seuls points de franchissement sur le Dniepr avec le barrage d'une centrale électrique à 55 km de là. Or, on estime à 30 000 le nombre de soldats russes qui se battent à l'ouest du Dniepr et si les ponts étaient partiellement détruits ou inutilisables, l'armée russe ne pourrait envoyer des renforts vers l'avant ni organiser un retrait en arrière du fleuve en cas d'offensive ukrainienne. On voit ainsi se dessiner la stratégie de Kiev pour les semaines à venir, bloquer les forces russes à l'ouest du Dniepr et les forcer à se rendre.
Et la Russie promet des mesures de rétorsion après la confirmation par la justice européenne de la suspension des chaînes Russia Today et Sputnik. Déclaration du porte-parole du Kremlin qui dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Il menace en retour de faire pression contre les médias occidentaux en Russie. Daniel Vallot.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les sites de plusieurs médias occidentaux ont été bloqués par la Russie et le bureau moscovite de la radio-télévision canadienne a été fermé. Mais d'autres mesures similaires devraient suivre selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui se dit outré par la décision de la justice européenne de confirmer la suspension de la chaîne de télévision RT.
C'est une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse et nous le déplorons. Nous allons prendre, bien entendu, des mesures similaires contre les médias occidentaux qui sont dans notre pays. Nous ne les laisserons pas travailler et il n'y aura aucune souplesse à attendre de notre part.
Accusés d'être des instruments de désinformation du Kremlin, les médias Sputnik et RT ont été interdits de diffusion dans toute l'Union européenne depuis le 2 mars dernier. Cette décision est justifiée aux yeux de la justice européenne par le besoin d'éviter la propagande en faveur de l'agression militaire de l'Ukraine. En France, la suspension de RT a pris une dimension particulière car le pays était le dernier en Europe à héberger sur son territoire une filiale de RT. La chaîne de télévision russe, dont la suspension a été confirmée par la justice européenne, a fait savoir qu'elle ferait appel de la décision.
Toujours dans l'actualité internationale, la crise politique se poursuit en Irak 10 mois après les dernières élections législatives. Des partisans du leader chiite Moqtada Sadr ont pris d'assaut le Parlement. Les manifestants s'étaient rassemblés à Bagdad pour dénoncer la candidature de Mohamed Shia al-Soudani au poste de Premier ministre, candidat présenté par le camp politique adverse. La correspondance de Lucille Wasserman, RFI.
La nuit tombe sur Bagdad et dans le quartier politique ultra sécurisé de la capitale, des centaines de manifestants entrent de force dans le Parlement irakien. Des partisans de Moqtada Sadr qui occupent désormais le bâtiment en brandissant des photos de leur leader. Ils crient leur colère contre Mohamed Shia al-Soudani, le candidat au poste de Premier ministre soutenu par le camp politique adverse.
On s'est introduit dans le Parlement car on ne veut pas de la corruption et on ne veut pas de Mohamed al-Soudani. C'est un corrompu, tous les ministères dans lesquels il a travaillé, il y avait de la corruption.
Une manifestation appelée par Moqtada Sadr, le grand gagnant des élections, qui a fait démissionner tous ses députés le mois dernier, après avoir échoué à former un gouvernement. Depuis, le clair chiite multiplie les démonstrations de force pour rappeler à ses adversaires qu'il a la possibilité de déstabiliser le pays s'il le veut. Au centre du salon, habituellement réservé aux députés, Mohamed, 52 ans, dénonce le système politique construit après 2003.
Ces politiciens ont détruit l'Irak, ils ont détruit notre civilisation. On n'a rien, pas d'éducation, pas de santé, pas de service. Ça fait 20 ans et ça suffit. Ils doivent tous partir.
Après quelques heures sur place, ces manifestants quittent finalement l'enceinte du Parlement sans grande violence. Mais pour combien de temps, alors que dans le camp adverse, certains appellent déjà à l'escalade?
On le disait en titre, le sida continue de tuer. 650 000 personnes sont décédées en 2021. Un chiffre en baisse par rapport à 2020, mais toujours bien trop élevé par rapport aux objectifs, selon le rapport annuel de l'Organisation des Nations Unies Sida. Un rapport très pessimiste quant à la lutte contre le VIH. 1 500 000 nouvelles infections ont été recensées. Un chiffre qui suscite l'inquiétude. On écoute Fodé Simaga. Il est le directeur du département Sciences, Systèmes et Services pour tous à l'ONU Sida.
On est sur une pente plutôt négative que positive. En plus, on voit carrément les nouvelles infections réaugmenter, ce qui ne s'était pas vu depuis 10 ans dans certaines régions, en Europe de l'Est et en Asie, en Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Amérique latine, dans certains pays d'Afrique subsaharienne. On voit la mortalité qui stagne, 650 000 nouveaux morts cette année, ça fait quand même un mort toutes les 2 minutes. On voit des populations clés qui continuent à être de plus en plus affectées, stigmatisées, marginalisées, donc ne pas avoir accès aux services. Les adolescentes et jeunes filles en Afrique subsaharienne, c'est une infection toutes les 2 minutes. Donc oui, on est un petit peu inquiet, effectivement, de voir que, bien qu'on ait 40 ans d'expérience, qu'on ait des outils diagnostiques, traitements et de tests qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à endiguer cette pandémie.
Sans transition aucune, les températures de ce jeudi après-midi. Perth 21 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 13, Hobart 12 degrés, Canberra comptait 15 degrés. Il fera 19 à Sydney, 20 à Brisbane, 25 à Cairns. Et le plus chaud comme d'habitude, c'est pour Darwin, 31 degrés. Le rappel des titres. Le gouvernement albanais présente aujourd'hui son budget. Au menu, taux d'inflation en hausse, croissance réduite. Les visas de protection pour les Ukrainiens ayant fui la guerre et s'étant réfugiés en Australie seront étendus aussi longtemps que nécessaire. Et enfin, ce rapport très pessimiste de l'ONU sur la lutte contre le sida. 650 000 personnes sont décédées du VIH l'année dernière. Le nombre d'infections augmente de nouveau.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur SBS French. Tout de suite, ce sera les sports, Tour de France féminin, mais aussi déception pour les footballeuses françaises lors de l'Euro. Les Bleus disent adieu à leur rêve de finale après la défaite face à l'Allemagne. Tous les détails dans le journal des sports présenté aujourd'hui par Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Tour de France, la quatrième étape hier du Tour féminin remportée par la Suissesse Marlène Reusser. Reportage Christophe Diremzian pour RFI.
Maîtresse du chrono, Marlène Reusser l'est manifestement aussi des terrains compliqués. En décidant de porter son attaque décisive à 23 km de l'arrivée, l'imposante bernoise au coup de pédale puissant a fini par lâcher un peloton laissé sans répit par son équipe.
On a décidé qu'on va avoir une journée dure pour tout le monde et on a réussi avec ça. On a créé une situation qui nous a permis vraiment d'attaquer parce qu'on était 5 dans une groupe déjà assez réduite. Et avec nos deux leaders, on a pris l'opportunité. C'était mon attaque qui a été successful.
Derrière, la Française Evita Mujic a réglé la deuxième place au sprint et a permis à la FDJ Suez de garder le sourire après la victoire la veille à Épernay de la Danoise Cécile Ludwig, qui avait déjà redonné du baume au cœur à sa formation, sonnée par l'abandon rapide de sa leader, l'Italienne Marta Cavalli.
Je pense qu'on est vraiment dans une bonne dynamique. La gagne hier nous a enlevé aussi pas mal de pression. On sait que maintenant, notre tour est réussi. Et puis, mine de rien, après ce qui est arrivé à Marta, ça nous a aussi donné beaucoup de force et on se donne aussi à 100%. Pour elle, mais c'est pas fini.
Si la plupart des favorites ont passé sans encombre les graviers pointus des chemins blancs, une des bien placées au général, l'Espagnole Mavi Garcia, y a fait tourner les roues de l'infortune en crevant plusieurs fois avant d'être percutée de l'arrière par la voiture de son directeur sportif. Pas de bobo, mais encore 1 minute 32 perdue sur les meilleurs.
Je vous propose maintenant ce focus sur la grimpeuse sud-africaine Ashley Moolman. Elle a 36 ans. Christophe Diremzian, RFI.
Ashley Moolman ne pouvait pas rêver mieux qu'un tour comme cadeau d'adieu et couronnement d'une riche carrière. 4 fois championne d'Afrique sur route, 3 fois en contre-la-montre, la native de Pretoria est un trop rare exemple de réussite du cyclisme féminin au-delà du continent, mais son rôle de modèle ne lui déplaît pas.
Je suis une athlète guidée par des objectifs, donc pour moi c'est toujours spécial de savoir que je suis une ambassadrice, non seulement pour mon pays, mais pour le continent tout entier. Et ça me motive beaucoup. Quand ça devient dur, je pense vraiment à toutes les femmes africaines qui me regardent. Obtenir le maillot jaune ne serait pas seulement un accomplissement pour moi, ce serait un moment d'histoire.
Pour cela, la grimpeuse familière des cols et des podiums du Giro devra sans doute attendre jusqu'à ce week-end et la montée finale vers la super planche des belles filles, une ascension redoutée qu'elle attend avec impatience.
C'est une montée qui me convient bien. Près de chez moi, il y en a une qui est assez similaire, une montée très raide. J'ai aussi une bonne expérience de la montée du Zoncolan sur le Giro en 2018, donc je vais puiser dans toute cette énergie et attendre impatiemment cette dernière étape.
Viendra ensuite rapidement l'heure de quitter le monde du cyclisme réel pour tenter de régner sur le virtuel, car Ashley Moolman s'est déjà lancé le défi de devenir l'une des reines de l'e-sport en obtenant un premier titre mondial en 2020.
Le Tour de France féminin, je rappelle, est en direct sur la télévision SBS chaque soir. On passe au foot, l'Euro de foot féminin, les demi-finales. Hier, la France éliminée par l'Allemagne 2-1 et les Allemandes joueront contre les Anglaises en finale ce dimanche à Wembley. Tom Rossi, RFI.
Et elles peuvent nourrir quelques regrets, les Françaises, au terme de ce match très animé. Certes, elles étaient en dessous en première période, concédant logiquement l'ouverture du score à la 40e minute. L'inévitable Alexandra Popp est venue reprendre d'une belle volée un centre venu de la droite. Mais les Bleus ont ensuite réussi à égaliser juste avant la pause sur leur première véritable occasion. Une frappe à l'entrée de la surface de Diani. Le ballon touche le poteau, puis le dos de Fromm, la gardienne allemande. On se dit alors, enfin, les Bleus sont efficaces. C'était jusqu'ici leur péché mignon dans cet Euro, mais au retour des vestiaires, les vieux démons du réalisme les ont rattrapés. Multitude d'occasions autour de l'heure de jeu. La gardienne allemande a écoré les Bleus, puis Alexandra Popp, encore elle, les a punis à 15 minutes de la fin. La buteuse a jailli pour placer sa tête sur un centre. 2-1, 5e et 6e but en 5 matchs pour l'attaquante allemande, co-meilleure buteuse de cet Euro. Elle envoie l'Allemagne en finale à Wembley. Objectif pour eux, 9e titre en 11 participations. La France, elle, ne disputera donc pas sa première finale dans une grande compétition internationale. Elles ont pourtant beaucoup tenté ici devant les 27 000 spectateurs de ce stade de Milton Keynes. Les Allemands, d'ailleurs, ne veulent pas partir et ils célèbrent avec les joueuses.
On écoute maintenant la réaction de la Française Grace Gueyoro, milieu de terrain. Elle est naturellement déçue. Elle est sur RFI.
Déception ce soir, c'est sûr. Voilà, on a réussi à avoir des occasions. On le sait, dans ce genre de match, bah, la moindre occasion, il faut la mettre au fond. Et c'est ce qu'elles ont, elles, réussi à faire. Mais dans le jeu, dans l'agressivité, on a essayé de répondre présente. Voilà, je pense qu'à chaque fois, on a monté en intensité. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos temps forts. Après, voilà, on a tout donné ce soir. On a essayé de donner le maximum. Voilà, on avait un objectif, c'était d'aller en finale à Wembley. Voilà, donc la déception, elle est là. Après, voilà, c'est un match, il faut qu'on passe vite à autre chose. On va avoir d'autres compétitions, donc ça va être à nous de vite passer à autre chose et continuer à travailler, puisqu'on doit encore travailler pour aller décrocher un titre.
Mardi, en demi-finale, il y avait la victoire écrasante des Anglaises contre les Suédoises. Les Lyonnes ont gagné 4-0. Sofiane Amazian, RFI.
Une véritable correction. Après la frayeur en quart de finale face à l'Espagne et cette qualification au bout des prolongations, les Lyonnes déchaînées ont cette fois régalé devant leur public. 4 buts magnifiques, signés Bess Smith, son 6e de la compétition, Lucie Bronze, Alessia Russo d'une talonnade astucieuse avant cette lourde frappe de Fran Kirby. Les Anglaises de nouveau en mode rouleau compresseur, déjà 20 buts marqués depuis le début du tournoi. En face, presque rien. Les Suédoises ne sont jamais vraiment rentrées dans le match. Pourtant, les vice-championnes olympiques aiment affronter l'Angleterre. 7 confrontations avant ce match, 5 victoires pour la Suède. Mais la donne a changé, surtout depuis l'arrivée sur le banc anglais de la néerlandaise Sarina Wiegman, la porte-bonheur. 19 matchs disputés, aucune défaite au compteur. Direction Wembley donc pour les Anglaises, 1 an après la finale perdue dans le même stade par leurs homologues masculins. Un match pour l'histoire, 13 ans après leur dernière finale, ce sera contre l'Allemagne.
Un retour sur la CAN féminine au Maroc avec la finale, comme vous le savez, remportée par l'Afrique du Sud contre le Maroc 2-1 le week-end dernier. L'équipe féminine est rentrée chez elle en Afrique du Sud avant-hier. Romain Chanson, RFI.
Une telle fête à l'aéroport de Johannesburg, ce n'était pas arrivé depuis la victoire des Springboks à la Coupe du Monde de rugby en 2019. Cette fois, c'est le football et ce sont les femmes qui sont à l'honneur.
Je suis venue faire la fête avec les reines. Les Bayana Bayana nous ont rendu fiers.
Il est temps d'organiser un match entre l'équipe masculine et l'équipe féminine pour leur montrer que ce n'est pas qu'une affaire d'hommes.
L'équipe masculine, les Bafana Bafana, peu performante, est moquée par les supporters. Mais l'histoire du football sud-africain s'écrit tous ensemble, veut croire Mark Williams, double buteur lors de la finale de la CAN remportée par l'Afrique du Sud en 1996.
On se demandait toujours quand est-ce que les Bafana Bafana gagneraient la prochaine coupe. 26 ans plus tard, ce sont les femmes qui la remportent et je pense que c'est un très grand moment pour les Sud-Africains.
Cette Coupe d'Afrique et cette cérémonie, c'est une grande dose de bonheur partagée avec les fans, confie Janine Van Wyk, la capitaine de l'équipe.
On n'aurait pas pu gagner sans nos supporters et nos fans, et on avait aussi envie de redonner un peu d'espoir à notre pays.
Les Banyana Banyana ont déjà validé leur ticket pour la Coupe du Monde 2023. Objectif, réussir à aller au-delà des phases de groupe.
Un mot de tennis, le tournoi international Davis Cup se tient au Cameroun et regroupe les pays de la zone 4 Afrique, à savoir le Cameroun, le Burundi, l'Éthiopie, le Ghana, le Gabon, l'île Maurice, le Nigeria et le Sénégal. L'Australien Nick Kyrgios a déclaré forfait pour le tournoi d'Atlanta suite d'une blessure au genou. Il avait aussi des problèmes aux épaules lors du tournoi de Wimbledon. Il est naturellement déçu de se retirer de ce tournoi à Atlanta.
I've won this tournament once and you know I'm playing probably some of the best tennis of my career and all I wanted to do was come out here and give you guys a show, obviously just see what I was capable of, but I'm unable to give out my best performance today and I'm just extremely sorry, but I'm going to, you know, keep my hopes up and maybe be able to continue doubles with Tanasi this week.
C'est le Français Adrien Manarino qui a été intégré au tableau et il remplace donc Nick Kyrgios. Le médaillé d'or de hockey, Eddie Okenden et la joueuse de squash Rachel Greenham ont été nommées double porte-drapeau de l'Australie pour la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth de ce jeudi au stade Alexander de la ville de Birmingham. Les Jeux accueilleront plus de 5000 athlètes de 72 pays et mettront en vedette le plus grand nombre de femmes et de para-athlètes de son histoire. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Comme une tornade joyeuse, bien l'opposé de la détresse.
Un peu de mélancolie heureuse chantée par Team Dup. Comme chaque jeudi, on le disait en sommaire, c'est l'heure de la chronique économie. Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich parlent du taux d'inflation australien.
Comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et on parle du taux d'inflation qui a atteint son plus haut niveau en 21 ans.
Oui, tout à fait. En fait, le Bureau australien des statistiques vient d'annoncer que pour l'année jusqu'à la fin du mois de juin, le taux d'inflation annuel pour l'Australie est à 6,1%, ce qui est donc le plus haut niveau depuis 2001. Quand la GST, la TVA, a été introduite, donc vraiment très 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 longtemps, et on voit que pour les trois mois jusqu'à la fin du mois, la fin du mois de juin, les prix ont monté par 1,8%. Donc la ville où il y a la plus d'inflation, c'est à Perth. Le taux d'inflation annuel est à 7,4%, pas loin après ça, il y a Brisbane, avec 7,3%. Les économistes pensaient que l'inflation serait entre 6,2 et 6,4%, donc ils ne sont pas loin de ça. Et ce qui a fait monter le taux d'inflation, c'est des choses comme le prix des maisons, qui monte comme presque toujours, l'essence qui monte malgré le fait que il y avait ce excise tax qui avait été enlevé du prix de l'essence et d'autres choses comme même le mobilier, les meubles sont beaucoup plus chers qu'ils y étaient il y a quelques mois. Donc le trésorier Jim Chalmers a dit que ce n'est pas surprenant, mais quand même c'est difficile et que la situation va rester comme ça, l'inflation va rester haut et ça va continuer à monter, les choses vont devenir plus dures avant qu'elles deviennent plus faciles. Le groupe qui représente beaucoup des commerces, the Australian Chamber of Commerce and Industry, a dit que cette hausse du prix d'inflation était alarmant. Il dit que les business essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est sûr que ça va commencer à faire vraiment du mal aux employés, aux consommateurs et à presque tout le monde. Donc, on ne sait pas maintenant combien la Banque centrale va faire monter le taux d'intérêt, mais c'est sûr que ce taux d'inflation très haut va les pousser à monter le taux d'intérêt encore plus. Il y a des économistes qui disent que ça pourrait monter par 0,75%, ce qui serait vraiment énorme, c'est clair. Mais bon, ça, il va falloir attendre encore un peu plus longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que le taux d'inflation n'a pas fini de monter.
Et puis, Nicolas, on se demande s'il y a presque trop d'avocats en Australie en ce moment, et là on parle du fruit de l'avocatier et non pas de la profession légale.
J'allais dire la même chose. Oui, donc c'est vraiment un bon moment si on aime bien les avocats, pas tellement bien pour les fermiers, qui est peut-être étrange, mais c'est vrai qu'on on vend des avocats comme on n'en a jamais vendu. Les Australiens ont un goût pour ce fruit, parce que c'est un fruit, dans des salades, sur leur toast, le fameux smashed avo, ou même dans des smoothies, parce que on a vu que la récolte d'avocats est énorme cette saison. Mais les fermiers demandent aux gens d'en manger encore plus parce qu'il y en a trop. Il y a des stocks énormes et ça va commencer à pourrir. Et donc, on a vu le prix des avocats qui est tombé au plus bas niveau jamais vu. Donc, on a produit presque 124 000 tonnes d'avocats cette année, qui est 30 000 tonnes de plus que l'année dernière. Donc, c'est une croissance énorme qu'on a vue même depuis 2017. Et il y a plus de 1000 hectares d'arbres d'avocats qui sont plantés chaque année. Et ça va vraiment continuer parce que les Australiens aiment ça. Mais pour les fermiers, c'est vrai que c'est un problème parce que les réserves d'avocats sont très, très grandes et les prix sont très bas. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont vendus même pour 1 dollar pour chaque avocat. Donc, pour les fermiers, ils ne font pas d'argent parce que ça leur coûte quand même pour produire les avocats et puis le travail du main-d'œuvre est cher aussi, donc ils gagnent vraiment pas beaucoup d'argent. Donc ils espèrent qu'ils vont pouvoir exporter plus d'avocats parce qu'il y en a déjà qui sont exportés un peu partout dans l'Asie du Sud-Est, à Singapour, à Hong Kong, en Malaisie. Et en fait, l'exportation des avocats est montée par 350% juste dans les derniers 12 mois. Donc, c'est assez étonnant. Mais ils veulent pouvoir exporter ça ailleurs, en Asie du Sud-Est. Ils espèrent peut-être même en Inde, qui serait un énorme marché. Et ça pourrait être une façon d'en vendre plus parce que y a vraiment un problème là. Même avec l'appétit incroyable des Australiens pour les avocats, c'est vraiment pas assez avec tout ce qu'on produit en ce moment. Donc voilà, les smashed avocats on toast, c'est pas cher.
Absolument, et c'est aussi bon pour la santé, ça aide à baisser le taux de cholestérol apparemment.
Ah bon, ah d'accord, ouais. Non mais c'est voilà. Délicieux, c'est sûr.
Merci Nicolas pour cette analyse de l'économie australienne. À bientôt.
Merci Jean-Noël, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi ce qu'il a de plus que moi.
Mon amour de Stromae. On en parlait en sommaire. Nous avons la chance d'être accompagnés en studio aujourd'hui par Frédéric Hollande, professeur à l'Université de Melbourne, pour parler de la place des femmes dans la science. Une conférence est organisée à Sydney sur le sujet. Restez sur SBS French. On marque une très courte pause juste avant cette interview.
Radio SBS. Les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation. sbs.com.au/french.
L'ambassade de France en Australie organise des cycles de discussions et le 17 août, aura lieu une conférence autour des femmes dans la science. Frédéric Hollande, vous êtes professeur à l'Université de Melbourne et vous avez pensé cet événement. Bonjour Frédéric.
Bonjour Marianne.
Parlez-nous de vous. Qui êtes-vous ?
Alors donc, je m'appelle Frédéric Hollande, je suis professeur à l'Université de Melbourne dans un département de pathologie clinique, donc je suis un chercheur en biomédical, donc particulièrement en cancérologie en fait. Dans ce contexte-là, je vois effectivement beaucoup de différences, disons, entre les hommes et les femmes dans la promotion de la carrière, et donc ça a trait au sujet dont nous allons parler aujourd'hui.
Et en quoi consiste la conférence qui aura lieu à Sydney le 17 août ?
Alors cette conférence, dans un premier temps, est organisée par une association qui s'appelle AFRAN, donc qui est une association franco-australienne pour promouvoir en fait les échanges en recherche et en innovation entre la France et l'Australie. Je suis donc au comité de pilotage de cette association qui est au niveau national, et donc nous avons un certain nombre d'activités, notamment l'organisation d'un certain nombre de conférences, d'événements, de symposiums, etc. Et AFRAN a été été donc un des acteurs majeurs dans l'organisation de la conférence en question, qui est vraiment en fait un symposium qui vise à discuter de la place des femmes dans la recherche, et en particulier avec un accent sur la recherche biomédicale dans ce contexte-là, et les différences et les similitudes entre la France et l'Australie en termes des challenges et des opportunités qui se présentent pour les femmes dans le développement de leur carrière.
Pourquoi il était important ou nécessaire d'organiser une conférence spécifiquement sur ce sujet ?
Alors, je vous apprends pas qu'il y a quand même encore une certaine différence entre les perspectives de carrière des hommes et des femmes dans différents milieux, étant moi-même fortement impliqué dans l'enseignement et la recherche. Malheureusement, c'est encore le cas chez nous aussi. Donc, on a vraiment besoin d'attirer l'attention encore sur cette différence-là, qui est vraiment pas acceptable. Mais au-delà de ça, dans le contexte donc de AFRAN et de l'interaction entre la France et l'Australie, ce qu'on voulait particulièrement discuter dans le contexte de cette conférence, c'était justement la manière différente potentiellement dont ces choses-là se présentent entre la France et l'Australie. La structure de la recherche n'est pas la même dans les deux pays, et donc ça présente des opportunités et des difficultés qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc on essaye de voir autour d'une discussion en fait avec un certain nombre de panélistes des deux côtés quelles sont ces difficultés, quelles sont ces opportunités, et est-ce que justement l'Australie peut apprendre un petit peu de la même façon dont les choses sont faites en France, et vice-versa bien évidemment.
Tout ce que vous venez de dire, ça me... plein de questions en tête. D'abord justement, les panélistes, est-ce que vous pouvez nous parler des chercheuses qui seront là ?
Bien sûr. Alors donc, nous avons la chance en fait d'avoir vraiment un panel qui est vraiment assez exceptionnel. Avec du côté français, nous avons donc comme hôte le docteur Claudie Aigneret. Alors Claudie est une ancienne astronaute en fait à l'Agence spatiale française. C'était la première femme française dans l'espace, mais au-delà de ça, et c'est la raison aussi pour laquelle nous l'avons invitée, c'est une physiologiste, un médecin, un spécialiste de la biologie du développement, de la physique des fluides, avec évidemment une spécialisation en médecine spatiale. Donc elle a vraiment une carrière dans la recherche biomédicale également assez importante. Nous avons également une jeune chercheure française du CNRS qui s'appelle Madge Martin, qui était en fait une lauréate d'un prix assez prestigieux en fait, qui est la fondation, le prix des jeunes talents pour les femmes et la science, offert par la fondation L'Oréal et par l'UNESCO. Du côté australien, nous avons également deux panélistes. Une de nos deux panélistes, c'est la professeure Nathalie Hannan. Nathalie est associate dean, c'est-à-dire doyen associé pour la diversité et l'inclusion à l'université de Melbourne, et plus particulièrement dans la faculté de médecine. Elle travaille sur en fait des complications majeures durant la grossesse, donc elle a des préoccupations de recherche qui sont tout à fait centrées sur les femmes également, mais elle est aussi donc spécialiste de ce genre de challenge que doivent rencontrer les femmes durant leur carrière. Le dernier panéliste, c'est le docteur Jiawen Li, qui est lecturer à l'université d'Adélaïde et également une lauréate du prix L'Oréal et de l'UNESCO en 2021. Dernière chose, nous devons modérer cette discussion pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc on a la chance d'avoir le professeur Catherine Daniel qui va modérer cette discussion. Catherine est directeure à l'école de cybernétique à l'Université nationale australienne. Plus important dans ce qui nous concerne ici, elle est aussi la présidente de l'association AFRAN, donc elle est très bien placée pour modérer cette discussion. Donc on a vraiment de la chance d'avoir un panel de très haut niveau et également des personnes qui sont à des divers niveaux de carrière et donc qui ont eu des expériences vraisemblablement légèrement différentes également.
Et vous disiez que lors de cette conférence, vous alliez parler justement des difficultés rencontrées par les femmes dans la science et pourquoi on en arrive à ces difficultés. Est-ce que on peut rentrer un petit peu plus dans les détails justement ?
Alors oui, les difficultés se produisent à différents niveaux de la carrière des femmes. Elles ont différentes raisons, c'est assez compliqué. Je vous engage à assister justement à cette discussion et vous en comprendrez vraiment les complexités. Ça commence déjà bien évidemment avant l'université et ça commence à l'école avec l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons. Ça continue effectivement au niveau de la recherche avec des différences qui sont des différences issues de la culture mais qui sont vraiment des différences structurelles. Donc les recrutements sont faits de telle manière que les recrutements sont souvent plus difficiles pour les femmes que pour les hommes. La promotion, particulièrement une fois que les gens ont été recrutés, est clairement plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Je prendrai un exemple très simple dans nos universités en Australie, où en fait au niveau les plus bas de l'échelon, on a une représentation des femmes, surtout en recherche biomédicale, qui est particulièrement importante puisque nos étudiantes et nos jeunes chercheurs femmes représentent la majorité, probablement proche des 60% du pool de chercheurs à ce niveau-là. Alors que dès qu'on monte au niveau professoral, malheureusement, c'est vraiment dans l'inverse. En fait, on a vraisemblablement moins d'un tiers de femmes professeurs. Donc, on a clairement une évolution de carrière qui ne se passe pas de la même manière. Et donc, on a un certain nombre de choses au niveau structurel à revisiter.
Et il y a une réelle différence entre la France et l'Australie ?
Alors là encore, on va voir ce que nous disent ces dames lors de la discussion, mais clairement, ayant moi-même travaillé en France pendant assez longtemps, puisque j'étais directeur de recherche au CNRS pendant un certain nombre d'années, il est clair que la progression de la recherche en France, dans certaines matières, a été pour les femmes clairement beaucoup plus difficile. Je pense que l'Australie était un petit peu plus ouverte de ce côté-là, mais la différence en France et en Australie, c'est qu'en France, on a un système qui est relativement homogène nationalement, alors que l'Australie, les différentes universités ont quand même des approches très différentes. Donc quelque part, on aurait presque envie de dire que la France se situe quelque part entre les meilleures universités australiennes de ce côté-là et celles qui sont un peu plus en retard. Et la France est quelque part au milieu.
Et Frédéric, vous qui avez pensé cette conférence, cette discussion, qui est votre cible ? À qui s'adresse cette conférence ?
Alors la cible est multiple, on attend déjà, j'espère en tout cas, d'avoir dans notre audience des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses en particulier. Donc il est clair que les gens que nous avons invités pour ce panel sont des gens qui ont un rôle de rôle modèle très très important. Il est clair que des gens comme Claudie Aigneret par exemple, surtout à l'époque où elle a été elle-même la première femme dans l'espace, plus médecin, etc., etc. C'est quelque chose qui était vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, heureusement, on a plus de personnes comme ça, mais ce sont des personnes qui ont encore des carrières qui sont vraiment des exemples pour nos jeunes. Et donc, j'espère que du côté à la fois des jeunes chercheurs, mais aussi du côté des étudiants et des jeunes filles, on aura un impact. Et donc, il faudra également, je pense, qu'on continue cette discussion. Et je suis particulièrement intéressé notamment à aller dans les écoles pour promouvoir la recherche en général, bien évidemment, le bilinguisme franco-australien, bien évidemment, mais aussi particulièrement pour essayer de motiver les petites filles à se diriger vers ces recherches-là, comme on en discutait tout à l'heure. On a la moitié des cerveaux féminins dont on ne devrait pas se passer, et on a besoin des meilleurs cerveaux pour la recherche. C'est une activité qui est tellement excitante, mais aussi tellement difficile, qu'il faut absolument que les petites filles deviennent de fantastiques chercheuses.
En parlant de fantastique chercheuse, Marie Curie, à l'issue de la discussion, il y aura la projection du film franco-polonais Marie Curie. Pourquoi avoir choisi ce film ?
Qui représente mieux vraiment cette bataille à la fois d'un cerveau extraordinaire de scientifique qui était celui de Marie Curie, mais aussi cette bataille qu'elle a dû mener justement pour s'imposer dans un monde qui à l'époque était encore beaucoup plus masculin qu'il n'est aujourd'hui, que Marie. Donc je pense que c'était vraiment en fait l'exemple idéal pour montrer que quand on est capable de surmonter tous ces obstacles, c'est bien qu'on est en fait encore meilleur que les hommes qui sont autour. Donc on espère que heureusement les jeunes étudiantes d'aujourd'hui n'auront plus à franchir des obstacles aussi difficiles qu'elles, mais en tout cas ça nous paraissait être un bon symbole de cette lutte à travers le dernier siècle, on va dire.
Frédéric Hollande, vous restez avec nous, on va marquer une très courte pause, l'interview n'est pas terminée, elle n'est pas chercheuse mais elle était artiste, c'était une grande dame également, Edith Piaf. Je vous laisse sur cette chanson de La vie en rose.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose.
Frédéric Hollande, vous êtes encore avec nous. On continue cette interview consacrée à la place des femmes dans les sciences et leur rôle. Vous allez organiser le 17 août à Sydney une conférence sur ce thème. On en a parlé en première partie d'interview. On l'a un petit peu abordé. Je voudrais qu'on revienne sur cette inégalité entre les hommes et les femmes dans les sciences. Est-ce que les femmes sont-elles vraiment sous-représentées ?
Alors effectivement, les femmes sont sous-représentées de deux manières. Les femmes sont sous-représentées dans certaines disciplines. Donc clairement, comme je le soulignais tout à l'heure, dans les disciplines de recherche biomédicale qui sont mon domaine de prédilection, ce n'est pas le cas. On a la chance d'avoir beaucoup de femmes qui sont intéressées par ces disciplines et qui sont présentes. Par contre, c'est le cas clairement dans certaines autres disciplines qui ont encore une connotation un peu plus masculine pour diverses raisons, notamment la physique par exemple ou des choses comme ça, ou l'ingénierie. Et là, effectivement, il y a un gros effort à faire pour essayer d'attirer un peu plus les femmes au début du système. Dans la deuxième manière en fait, dont on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de problèmes, c'est au niveau des promotions. Une fois que les femmes sont rentrées dans le système, et donc en recherche biomédicale, on a cette barrière quelque part en milieu de carrière, où on s'aperçoit que donc les jeunes femmes qui sont en grand nombre dans les premières années ne sont pas promues en fait, et donc n'arrivent pas à des postes décisionnels, arrivent peu à des postes décisionnels. Il y a quand même heureusement un certain nombre de femmes qui le sont, mais elles sont clairement sous-représentées dans ces échelons un peu plus élevés de décision.
Quelles sont concrètement les ambitions de cette conférence? Quelles sont, vous, vos espérances à l'issue de cette discussion?
Alors évidemment, on ne va pas changer tout d'un coup le monde en une seule conférence. Hein. On s'attend bien à ce que ce ne soit pas le cas. Par contre, effectivement, on a un certain nombre d'objectifs. La première chose, effectivement, c'est que en Australie, en tout cas, la tendance, quand on est en train d'essayer de réformer un système et de temps en temps de regarder vers l'extérieur pour voir ce qui s'y passe, c'est toujours bien évidemment de regarder vers nos collègues anglo-saxons, donc de regarder vers les États-Unis, de regarder vers l'Angleterre. Ici, on voudrait montrer un petit peu aussi que le système français peut avoir des choses intéressantes à apprendre au système australien et vice-versa, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucun doute. Mais donc, regarder un petit peu plus vers la France, et effectivement, ça fait partie des missions d'AFRAN de se placer dans ce contexte, d'éveiller un petit peu les Australiens à la réalité de la recherche, l'innovation, notamment sous ces aspects-là, d'inégalité aussi du côté français. Donc AFRAN a vraiment vocation, au-delà de cet aspect bonne relation entre la France et l'Australie, networking entre la France et l'Australie, a vocation aussi, je pense, à être un des acteurs qui peut participer au changement de cette culture. Et donc on a un certain nombre d'activités qui sont autour de cette problématique-là. Il y a peu de temps, le hub français d'AFRAN, qui était sponsorisé à l'époque par l'ambassade d'Australie, a également réalisé une petite conférence autour de cette thématique d'inégalité homme-femme. Donc on a vraiment une activité AFRAN qui est non seulement centrée sur les objectifs scientifiques, mais au-delà de ça aussi sur tout ce qui est périphérique, qui fait en fait une science en bonne santé et qui est représentative de la société. Donc un des objectifs supplémentaires, je le soulignais tout à l'heure, c'était vraiment qu'on espère petit à petit changer la culture en ciblant, disons, une audience de jeunes et en leur faisant, jeunes hommes autant que jeunes femmes d'ailleurs, hein, puisqu'il est important pour les jeunes hommes de réaliser que la compétition avec les femmes est quelque chose de très sain, et c'est effectivement, ça fait partie juste du monde scientifique qui est un monde de compétition également.
Et vous allez organiser un seul panel de discussion? Est-ce que c'est un, si je puis dire, one shot, ou est-ce que vous allez en organiser plusieurs?
Alors, comme je le soulignais à l'instant, donc ça fait partie déjà d'une petite série d'événements ponctuels, hein, donc avec l'événement dont j'ai parlé, qui était le seul à être déjà passé, qui est celui organisé à Paris par l'ambassade d'Australie. On fait pour l'instant une série d'événements pendant une année pour essayer justement d'évaluer et de voir quel est l'impact, si effectivement on doit modifier un peu tout ça. On a un plan donc clairement de s'impliquer dans ce type de discussion de façon pérenne. C'est quelque chose qui nous intéresse, c'est quelque chose qui ne va pas être réglé malheureusement l'année prochaine. Mais pour l'instant, en termes de format, en termes d'intervenants, on n'a pas encore de plan très précis parce qu'on veut voir justement si on peut pas s'améliorer au fur et à mesure. On reviendra en discuter avec vous l'année prochaine.
Avec plaisir. Un dernier mot pour nous présenter cette conférence?
Voilà, donc la conférence s'intitule en fait, je vais prendre mes notes pour être sûr de ne pas me prononcer de façon aberrante le nom, mais donc ça fait partie d'ailleurs, je devrais dire, de Australian Science Week, in fact, et ça s'appelle Challenges and Opportunities for Women in Research, The Sky is No Limit. C'est donc le 17 août, ce sera en partie en fait en face à face au Powerhouse Altimo à Sydney, mais également on aura donc un streaming online pour tous nos auditeurs qui sont intéressés et qui sont ailleurs en Australie. Donc je vous engage à vous connecter sur le site de AFRAN, qui est donc www.afran.org.au /upcoming-events et vous aurez tous les détails pour vous enregistrer à cette conférence qui est gratuite, ainsi que le streaming du film. Donc je vous engage vraiment à essayer de participer avec nous, et vous pourrez poser des questions d'ailleurs online également si vous le souhaitez.
Frédéric Hollande, merci beaucoup.
Merci à vous pour cette invitation.
Avec plaisir. Il est 13h57 sur SBS French, l'heure du rappel des titres. Taux d'inflation en hausse, PIB en baisse et croissance réduite, le gouvernement albanais s'apprête à présenter son budget. Les visas de protection pour les Ukrainiens ayant fui la guerre et s'étant réfugiés en Australie seront étendus aussi longtemps que nécessaire. Déclaration du ministre de l'Immigration quelques jours seulement avant la fin du programme humanitaire mis en place par le gouvernement Morrison. Le rapport très pessimiste de l'ONU sur la lutte contre le sida. 650 000 personnes sont décédées du VIH l'année dernière et le nombre d'infections augmente de nouveau dans certaines régions. Et enfin en sport, les Bleus éliminés de l'Euro 2022 après leur défaite aux portes de la finale. 1-2 contre les Allemandes, fin de la compétition donc pour les joueuses de Corinne Diacre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est samedi. Même fréquence, même heure. Ce sera présenté par moi, Marianne Murat. J'ai été très heureuse de passer cette heure à votre compagnie. Si vous voulez réécouter cette émission, soit en intégralité, soit par chronique, les news, le sport ou alors l'interview, vous pouvez vous connecter sur notre site internet sbs.com.au/french, notre page Facebook SBS French, Spotify, Apple Music ou encore toutes vos plateformes forme de podcast préférée. Je vous souhaite de passer une excellente journée à samedi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.